en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Il y a quelques jours à peine, il aurait eu exactement 200 ans. La Belle Hélène, Orphée aux Enfers, La Vie Parisienne, Les Contes d'Hoffmann. Voici quelques-unes des œuvres les plus célèbres de Jacques Offenbach. Beaucoup moins connue sans doute est Madame Favart, qui fut pourtant un vrai succès populaire à sa création en 1878, 2 ans avant la mort du compositeur. La musique joyeuse et enlevée, les personnages attachants, l'intrigue virevoltante entre complots amoureux et quiproquos, l'humour et la finesse du livret de Durieux et Chivot en font un opéra comique absolument jubilatoire. Il est justement à l'affiche de l'Opéra Comique à Paris, en coproduction avec le Palazzetto Bruzzane de Venise, l'Opéra de Limoges et le Théâtre de Caen, à la mise en scène Anne Kessler de la Comédie Française, à la baguette Laurent Campellone qui dirige ici l'Orchestre de Chambre de Paris. Madame Favart, c'est donc Salle Favart à l'Opéra Comique jusqu'au 30 juin, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux et merci d'être là.
Merci, bonjour.
C'est la première fois, Anne Kessler, que cette œuvre est donnée à l'Opéra Comique. C'est pourtant l'écrin idéal, puisque la Salle Favart, c'est l'autre nom de l'Opéra Comique. C'est donc Charles Simon Favart et Madame Favart qui ont donné leur nom à cette salle. On peut dire qu'à l'époque d'Offenbach, ce couple, c'était vraiment les figures majeures de l'art lyrique à Paris.
Oui, je me suis surtout penchée sur Madame Favart, qui était une femme moderne, qui avait des talents multiples et très exigeante et très populaire en effet, et magnifique et très courtisée. Enfin.
Et dans la pièce, à la fin, c'est le roi qui donne le privilège de la salle à Favart. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça.
Je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit passé comme ça. Non, vous avez raison. Je préfère que vous disiez si vous savez vraiment comment ça s'est passé. Moi, je me suis laissé croire que l'histoire était véridique et il y a quand même du vrai et elle est assez vivante et assez juste pour qu'on puisse y croire.
C'est pour rendre hommage à ce couple-là qu'Offenbach a écrit cette œuvre-ci, Laurent Campellone.
Oui, et puis parce que il était très lié à l'Opéra Comique, donc c'était pour lui une façon de remercier cet homme qui a été un des grands gestionnaires de ce lieu, et aussi Madame Favart, puisqu'elle a bouleversé la mise en scène en étant très attentive, comment dirait-on, peut-être au vérisme des choses. Quand on représentait des paysannes avant elle, on faisait des costumes en soie magnifiques, qui étaient l'image qu'on pouvait se faire d'un paysan ou d'un homme du clergé. Et elle est allée chercher les costumes réels, la vérité. Elle a mis de la paille sur scène et Offenbach aimait beaucoup cette chose qui rapproche la scène du peuple.
Quoi. Alors Madame Favart, c'est un vrai opéra comique. On peut peut-être réexpliquer d'ailleurs, Laurent Campellone, ce qu'est un opéra comique par rapport à ce qu'est un opéra ou par rapport à ce qu'est une opérette. Quelles sont les différences?
Alors, il y avait des privilèges en fait à Paris. L'opéra de Paris, l'opéra comique ne pouvait pas se faire concurrence, on dirait aujourd'hui. En tout cas, ne pouvait pas présenter les mêmes spectacles. Et la spécificité de l'opéra comique, c'était d'alterner les scènes de théâtre parlé et les scènes chantées. Et il y avait aussi une chose, c'est qu'il devait y avoir des fins heureuses à l'opéra comique.
Mais ça, c'est un petit peu l'opérette aussi, ce que vous décrivez là, non ?
Oui, alors l'opérette, c'est un mot qui apparaît un peu plus tard, comme la comédie musicale apparaît encore plus tard, et qui est un dérivé peut-être un peu plus populaire. Enfin, les privilèges se sont dissous petit à petit, et on avait le droit de faire de l'opéra comique en dehors de l'opéra comique, et bon, opérette, aujourd'hui c'est un petit peu désuet, et c'est un peu connoté de façon péjorative.
Oui, ouais. Alors Madame Favart, c'est donc un vrai opéra comique. C'est la première fois aussi, c'est vraiment le spectacle des premières, Anne Kessler, puisque c'est la première fois que vous mettez en scène un opéra ou un opéra comique. C'est donc la première fois que vous jouez à la fois avec les mots Et la musique, mettre en scène la musique, c'est la même chose que mettre en scène un texte ?
Pour ce texte-là, finalement, oui. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup rassurée en me disant qu'il y avait énormément de textes parlés, qui me faisaient beaucoup rire, le livret me faisait beaucoup rire, et que je n'avais pas l'intention de le couper. Je crois que les chanteurs en ont été ravis. Et pas, d'abord parce que j'ai trouvé une équipe de chanteurs-acteurs merveilleux. Et je me suis effectivement rendu compte à quel point la musique était un prolongement de la parole et que ils étaient indissociables et que c'était comme ça qu'il fallait l'envisager, oui.
Alors il y a effectivement des airs extrêmement variés hein, dans ce spectacle. Il y a des couplets, il y a évidemment un voire même des duos d'amour, Laurent Campellone. Il y a ce qu'on appelle aussi une chanson de garnison. Donc là, on a vraiment l'impression de retrouver finalement tous les fondamentaux, quoi. Ce genre d'air rythme l'ensemble des productions de Jacques Offenbach.
Oui. Et pour rejoindre ce que disait Anne, le moment où la musique prend le relais sur la parole, en fait, on est toujours au théâtre. Voilà. La musique et le théâtre parlé ne sont que deux moments, enfin deux moyens du théâtre. Et quand vous disiez que ce sont des passages obligés, oui, parce que je pense qu'Offenbach se posait la question de ce que vient chercher son public au théâtre. Et je pense que tous les grands auteurs se posent cette question. Que donner au public? Non pas lui donner ce qu'il attend toujours, mais pour quelle raison il vient. Et alors,
Scène à boire et à manger, sans tyrolienne par exemple, le public aurait été déçu.
Mais je pense qu'Offenbach aurait été déçu, parce que ce qu'il veut, c'est que le public sorte avec des mélodies plein la tête, en ayant ri, en ayant été ému aussi, en ayant pu se projeter, voir. C'est comme la Commedia dell'arte, et on peut retrouver les mêmes personnages, je pense. Hein,
ah oui.
Le pantalone, enfin tous ces personnages sont là sur cette.
Donc il y a des archétypes en fait, hein, qu'on peut retrouver comme ça d'une pièce à l'autre.
Oui, je suis d'accord. Il y a une sorte d'archétype. Moi, j'arrêtais pas de penser à certaines pièces de Marivaux, au mariage de Figaro de Beaumarchais pour aller plus vers le 18e. Mais ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est que on est très accroché par l'histoire grâce aux personnages. Et donc, on a envie de savoir ce qui va se passer, comment ils vont se débrouiller de toutes ces intrigues. Et ils arrivent à nous accrocher comme ça, quand même.
Plus j'entendrai mon petit père.
extrait capté, comme on dit, lors de la répétition générale, tenait à le préciser Laurent Campellone, et c'est Anne-Catherine Gillet qui prête ainsi sa voix pleine de sensibilité et son jeu à la fois très présent et très aérien au personnage de Suzanne, cette fille à papa très jeune, hein, pleine de vie et d'amour, pour cet Hector de Bois-Préau, interprété par François Rougier, dont l'union très compliquée au départ va être rendue possible grâce au talent de comédienne de Madame Faveur, Anne Kessler. Là, on est dans l'acte 1 et le décor figure un atelier de couture. Vous avez d'ailleurs fait le choix d'un seul décor pour l'ensemble de la pièce. Ça peut surprendre parce qu'on parlait tout à l'heure de scène à boire. Le premier acte se passe essentiellement dans une auberge de campagne. On passe aussi dans un camp militaire, hein, plutôt à la fin du spectacle. On passe aussi par l'hôtel du chef de la police d'Arras. Alors, deux questions connexes, Anne Kessler. Pourquoi un décor unique et pourquoi un atelier de couture?
Alors, le décor unique, parce que j'aime beaucoup voir les décors évoluer et parce qu'on fait appel à l'intelligence du public qui voit, qui comprend petit à petit et qui s'accroche à l'histoire de cette manière. Et puis, l'atelier de couture, parce que justement, Laurent le disait en début d'émission, Madame Favart était très attachée au costume et je me suis dit que dans cette histoire, indépendamment de ce que Justine Favart appréciait, le costume fait le moine dans beaucoup d'histoires, mais vraiment on met un costume et on est cette personne, et ça m'amusait beaucoup d'imaginer que le costume venait à peine d'être fait, on le mettait et on était ce personnage.
Et dans l'atelier, c'est vrai que les couturières et les tailleurs confectionnent les costumes d'un spectacle, c'est vraiment ce que l'on voit nous spectateurs depuis la salle, et les étoffes, les différentes étoffes qu'on trouve sur le plateau, bah, vous les avez intégrées à la mise en scène, quoi. Il y a une étoffe rouge, oui, qui va devenir un rideau de théâtre, il y a une étoffe blanche qui va devenir un voile de mariée, par exemple. Mettre en scène Anne Kessler, est-ce que c'est un travail qui s'apparente à de la haute couture ?
Là, c'était un peu de la haute couture, oui. Moi, j'aime bien cette idée de haute couture, c'est-à-dire une œuvre qui serait un corps qu'on va essayer de magnifier, de comprendre, avec des idées aussi, des envies de couleurs, des envies d'étoffes, de tissus, mais quand même valoriser le corps, le rendre plus séduisant, plus beau, plus vivant.
Alors le rôle-titre, c'est donc celui de Madame Favart, le nom de scène de Justine Duronceret, épouse Favart. C'est la mezzo-soprano Marion Lebègue qui lui prête sa voix et son jeu. Elle a visiblement beaucoup aimé camper son personnage, elle l'a confié au micro d'Amélie Beaucourt.
Oh, Madame Favart, Justine Favart, c'est une femme qui a existé au temps des Lumières, sous Louis XV. C'était une comédienne extrêmement connue à l'époque, merveilleuse de féminité, merveilleuse de féminisme, et extrêmement moderne, puisque Justine Favart, c'est un tempérament, c'est quelqu'un qui a révolutionné le costume et qui jouait vraiment. C'est-à-dire que avant, les chanteuses, les quelques chanteuses, parce que ça restait quand même un monde d'hommes, elles devaient faire les coquettes en scène. On attendait d'elles d'être belles, jolies, mignonnes, et de faire rêver les spectateurs par leur minauderie. Et tout d'un coup, Justine Favart, elle écrase tout ça et elle joue. Elle joue profondément, elle incarne ses personnages, et donc dans tous les écrits, les lettres qu'on a encore d'elle, les échanges avec Monsieur Favart, avec le maréchal de Saxe dont elle a été la maîtresse, tout ça c'est fascinant de lire cette femme, et donc très vite fascinant de l'incarner, quoi. À la fois, on joue de notre imaginaire, on reste. Moi, je reste Marion Favart, j'allais dire, voilà le lapsus. Marion Lebègue en scène, avec mes qualités, avec mes incarnations de rôle, de voix, de tout ça, ça c'est mes propositions. Après, il y a quelques gravures de Justine, donc je me rends compte que par exemple sur Toinon, elle a beaucoup joué de paysanne, elle se voûtait beaucoup, donc j'ai essayé de retrouver certaines postures d'elle. Je me suis amusée un petit peu. Elle a joué une vieille dame aussi, je ne sais plus dans quelle pièce de Favart, un peu plus tard, et elle était complètement courbée, puis il est écrit qu'elle boitait, donc du coup je me suis dit je vais boiter pour ma vieille dame à moi aussi, mais après ça reste moi.
Alors c'est vrai qu'il est très attachant à ce personnage de Madame Favart, Anne Kessler. C'est un personnage qui a du talent, qui a du caractère, qui a un vrai charisme, qui est très courageuse, hein, aussi, qui a vraiment une force de vie incroyable qui se dégage du personnage. Et avec son mari, donc Charles-Simon Favart, ils forment un couple de comédiens, un couple d'artistes, un couple qui s'aime aussi. C'est presque un couple idéal parce qu'il y a une vraie confiance entre, malgré toutes les péripéties de leur aventure.
Oui, c'est un couple idéal. Moi, je je pense aussi que c'est un couple qui est assez récent. Alors, donc, ils sont encore très, très, très amoureux. Mais en plus, je crois que c'est un couple qui est resté très amoureux jusqu'au bout. Je crois que Justine Favard est morte avant Favard et qu'il s'est laissé mourir une fois qu'elle est partie. C'est une femme incroyable et le personnage, même s'il est certainement romancé, il y a certainement du vrai. On sent que c'est un portrait qui est assez juste.
Quant à Monsieur Favard, il était surnommé par Voltaire le Molière de l'opéra, excusez du peu. Et dans le programme du spectacle Laurent Campellone, vous rapprochez le personnage de Favard du personnage de Hoffmann dans les contes d'Hoffmann et vous dites que Favard c'est en quelque sorte l'anti Hoffmann. Pour quelle raison?
Alors, il y a une raison chronologique d'abord, c'est que les deux partitions ont été composées simultanément. Et donc, obligatoirement, il y a simultanéité des personnages dans l'esprit de d'Offenbach, mais ça c'est pas la raison ni nécessaire ni suffisante. C'est un indice. La vraie raison, c'est que Offenbach en parle souvent. Hoffmann est cet homme qui est menacé par les femmes. Il croise, comme il dit, trois femmes dans la même femme, plusieurs femmes qui sont des dangers pour lui, qui manquent de le tuer, de le rendre fou, et il est sauvé par sa muse, Niklaus. Eh bien, pour le personnage de Favard, c'est le contraire. C'est une seule femme, qui est plusieurs femmes parce qu'elle se déguise, et qui est sa muse. C'est comme si toutes ces femmes déployées dans les contes d'Hoffmann, qui le mettent en danger, avaient pour contrepoint cette femme unique, qui, elle, se démultiplie pour le sauver. Et je trouve que c'est très touchant, et ça correspond, je pense, aussi à la vie... À la vie d'Offenbach, il a été noyé par les amours multiples, les femmes dangereuses qui l'ont utilisé. Et à côté de ça, il a toujours rêvé de ce grand amour qui le sauve et qui l'inspire.
Alors Marion Lebègue en parlait à l'instant. Il y a aussi une vieille dame un peu claudiquante qui apparaît sur la scène de l'opéra comique. C'est cette fameuse comtesse de Montgriffon, un des déguisements de Madame Favard, un personnage qui entre en scène. Pas tout révéler, mais ça juste un petit détail quand même, en tenant un petit chien.
Oui.
En laisse, un petit roquet sympathique et dont les jappements inopinés comme ça font beaucoup rire. Et il y a tout un travail sur le déplacement et le jappement. Le chien, il est dans le livret, Anne Kessler, ou il est sorti de votre imagination?
Il est plutôt sorti de ma tête. Je pensais que cette femme avait un petit chien. J'imagine toujours ces vieilles comtesses avec des petits chiens partout. Alors, j'en ai mis qu'un, mais il est très efficace. Et surtout, j'ai essayé qu'il fasse très très peur au personnage de Éric Huchet qui campe le personnage du marquis de Pont-Sablé. Oui, c'est ça. Et j'ai vraiment eu envie qu'il ait très très peur de ce tout petit chien.
Bon, c'est pas gênant, les petits jappements comme ça, inopinés,
Laurent Campellone, pour tout vous dire. On a essayé plusieurs chiens et plusieurs aboiements. Et puis le casting a abouti.
Voilà, mais c'est important parce que ce sont des petits détails de mise en scène comme ça qui, je pense, participent beaucoup au plaisir du spectateur, Anne Kessler, vraiment au charme des personnages. Le marquis de Pont-Sablé qu'on évoquait à l'instant, il y a par exemple, il a le bâton, hein, qui est un bâton de marche, hein, qui l'aide à marcher. C'est aussi le symbole du pouvoir, hein, évidemment. Et ce bâton-là va devenir le bâton de théâtre.
Exactement. Moi, j'avais envie, pendant tout le spectacle, j'aime beaucoup... Là encore, c'est pour faire réfléchir, mais d'une manière très joyeuse, pas du tout prétentieuse, et faire des une sorte de connivence avec le public. Et ce bâton qui, effectivement, va prendre plusieurs sens. J'aime faire ça aussi avec la crinoline, qui va être une crinoline qui représente un jardin, et puis ensuite, elle va devenir un lustre pour finir... pour être la corbeille de fleurs que la diva reçoit à la fin pour son triomphe.
Voilà, on est à la fois dans la poésie et l'amusement, quoi.
C'est ce que m'a inspiré ce texte. Je pense que ce texte est très poétique, que Offenbach est plus que poétique et il y a une fantaisie chez lui, une magie, une légèreté, enfin bref, tous ces adjectifs qui reviennent sans cesse. Voilà, j'ai essayé d'être à la hauteur.
Oh, Lord. accueil très flatteur dont je suis enchanté. N'est après tout que mérité. Dernier des ponts sablés, je suis la noble grâce des chefs de mon illustre race. Mes aïeux, homme de guerre, dans le fond, j'en ai excellent. Mes sujets à la colère n'étaient pas très endurants. Pour un rien, une fétille, il rageait à qui mieux mieux. Enfoncer une bastille, ce n'était qu'un jeu pleureux. Pour ma famille, je fais comme mes aïeux. Je fais comme mes aïeux. Mes aïeux auprès des femmes étaient très entreprenants. Et bon, de nobles dames les eurent pour leurs galants. Leur longue histoire fourmille des exploits les plus fameux. De nobles dames ou jeunes filles, rien n'était sacré pour eux. Par respect pour ma famille, je fais comme mes aïeux.
Par respect pour sa famille, je fais comme mes aïeux.
Éric Huchet en marquis de Pont-Sablé. Au passage, on a entendu hein, ce bâton qui frappe le sol et le petit cri de la choriste hein, qui est effrayé comme ça à chaque fois, Anne Kessler. Et c'est vrai qu'on entend quelqu'un taper sur la table dans votre mise en scène. Il y a le bruit de la trappe aussi dans laquelle Favard est caché dans le premier acte. Ça rappelle un petit peu les portes qui claquent de votre ville, quoi.
Ah oui, oui, ça c'est certain. Là, les portes qui claquent et les rebondissements. Mais j'étais très encouragée par Laurent qui me disait souvent, mais n'hésite pas, il faut qu'il y ait du bruit. On a même pensé à un moment donné à faire marcher les machines à coudre.
Ah oui.
C'était un peu dangereux et puis elles sont arrivées si tard que le son aurait été plaqué, je pense.
Mais c'est vrai que on pense au vaudeville, on pense au théâtre de boulevard, Pont-Sablé par exemple qu'on évoquait à l'instant. Il aurait pu être un personnage de Fedot, Anne Kessler.
Ah oui, oui, il aurait pu être un personnage de Fedot, mais c'est aussi un personnage assez dangereux. Moi, je le voyais aussi comme un, oui, ces hommes de pouvoir qui se croient tout permis, qui font peur et à juste titre parce qu'ils ont du pouvoir. Et oui, moi, je pensais aussi à des Casanova aussi, à des personnes inquiétantes.
Parce que c'est un personnage un peu truculent, un peu fat aussi, dont on se demande effectivement jusqu'à quelles extrémités il peut aller. Un peu benêt aussi.
Alors, heureusement qu'il est un peu benêt, parce que comme ça, il est moins dangereux.
Voilà, c'est vraiment un personnage intéressant à jouer, comme d'ailleurs tous les personnages, parce que même les personnages secondaires, finalement, chez Offenbach, ont vraiment leur importance. Par exemple, Biscottin, l'aubergiste, déjà un nom formidable, Biscottin.
Ah, Biscottin, c'est
presque un nom de Fedot, là, encore.
Ah ben, hein. Absolument, mais je suis persuadée, oui, c'est vraiment des frères. Lionel Peintre, qui campe ce personnage, j'avais envie qu'il soit là tout le temps, partout, c'est un clown, un acteur incroyable. Donc, oui, les personnages, mais c'est ce qui fait aussi une belle pièce, c'est pour ça que le livret je le trouvais beau, c'est qu'il n'y a pas un personnage qui vienne servir la soupe et uniquement servir la soupe. Il existe, il a une ampleur, qu'il soit petit, même Raphaël Brémar qui joue le sergent Larose, c'est la moindre réplique fait mouche, il est tout à fait étonnant, et ça c'est parce qu'il y a quelque chose derrière, c'est bien écrit, c'est pensé.
Alors ça c'est pour le livret, mais la partition aussi elle est pleine de couleurs, je crois que vous avez employé d'ailleurs le mot couleur tout à l'heure Laurent Campellone, une tonalité très, très coloré, une vivacité vraiment très enlevée. D'ailleurs, ça se voit même dans votre façon de diriger l'orchestre, quoi. Vous avez une énergie vraiment, vraiment extraordinaire. Est-ce que le plaisir, c'est un élément essentiel lorsque vous dirigez ?
Ah ben oui, c'est le centre. Je veux dire, que ça soit un opéra tragique, que ça soit un opéra de Wagner, que ça soit un opéra de Mozart, que ça soit Offenbach, il faut qu'il y ait un plaisir, que ça soit le plaisir de la joie ou le plaisir de la mélancolie, de la tristesse, de la profondeur. peu importe, si j'arrive dans la fosse sans aucun plaisir, il faut pas y aller, quoi. Et la même chose pour les musiciens. Une partie de mon travail, outre la mise en place, outre le travail de répétition, les équilibres, enfin toutes ces choses-là, le caractère, disons les parties prises interprétatives, un travail et en tout cas une charge, c'est que les musiciens arrivent en fosse et soient heureux d'être là. Voilà.
Mais est-ce que toutes ces émotions-là, elles passent aussi par la façon dont vous bougez votre baguette, la façon dont vous bougez aussi votre corps? Est-ce qu'il y a une chorégraphie sentimentale de l'orchestration et du jeu lors d'une représentation?
Eh bien, je vous avoue que je n'ai pas conscience de ça et que moi qui suis incapable dans la vraie vie de me mettre sur une piste de danse et de danser, tout le monde me dit que je danse dans la fosse et je n'ai pas du tout conscience de ça.
Alors, quel est le regard de la metteuse en scène?
Je suis très impressionnée parce qu'effectivement, moi, je le vois sans cesse danser. Et je pense qu'effectivement, si on l'a dit souvent, c'est que c'est assez extraordinaire de voir cette gestuelle, cette grâce. C'est incroyable.
Oui, il y a une vraie symbiose, vraiment, entre vous, physiquement parlant, et la musique que vous interprétez avec l'orchestre.
Oui, oui. En tout cas, il y a une grande joie. Enfin, Offenbach est un compositeur parmi tant d'autres, mais qui est tellement jubilatoire, qui est tellement intelligent. Tout à l'heure, on parlait de Feydeau. Nous n'avons eu de cesse de parler de Feydeau avec Anne pendant toutes les répétitions parce que il y a une jubilation dans ce texte, dans les textes de Feydeau, dans le théâtre de cette époque. Il y a un plaisir, il y a un esprit qui transparaît partout. Et dans la musique de Offenbach, il y a cette chose-là, cette espèce de rire intelligent. Offenbach était juif, il y a quelque chose de l'humour juif à la fois extraordinaire et irrésistible, extraordinairement spirituel et à la fois extrêmement mélancolique, bienveillant. Enfin tout ça transparaît dans sa musique.
Et alors justement, comment est-ce que ça transparaît précisément à travers les notes, à travers les rythmes, oui, à travers l'orchestration, Laurent Campellone, parce qu'il y a une palette extrêmement large, oui, quand même, ne serait-ce que dans cet opéra comique là.
Comme fonctionne le comique au théâtre, par une extrême précision, par des contrastes, des contre-pieds qui sont pris, un rythme comme chez Rossini, comme chez Feydeau, on en parlait aussi souvent avec Anne, un rythme qui fait que tout doit absolument tomber au millimètre près, le génie de la mélodie de cet homme, le fait qu'il mélange, pour moi il y a beaucoup de points de comparaison entre Offenbach et Poulenc qui font qu'en étant en quatre mesures, on passe de l'église au café-concert, et il y a ça chez Feydeau qui prend un personnage qui le construit pendant 5 minutes sur scène et qui le fait choir en 2 répliques voilà. Donc tout ça, ce sont les mécanismes du rire chez Offenbach. Et puis il y a ce génie de l'orchestration qui fait que quand tout le monde part prendre une calèche, on met des grelots dans l'orchestre, et tout ça c'est évidemment jubilatoire pour le public.
Mais l'orchestration, elle est quand même beaucoup moins développée, beaucoup moins ample, si j'ose dire, que dans une pièce comme Les Contes d'Hoffmann, par exemple. Laurent Campellone, on est quelque chose de très expressif, nous sommes bien d'accord, avec plein de couleurs aussi, mais d'une ampleur plus réduite.
En fait, il adapte son orchestration. Je pense que c'est comme un couturier, puisque...
Ah, on y revient.
Oui, exactement. On se disait souvent avec Anne aussi que sa matière première, c'est, au compositeur, quel qu'il soit, Offenbach en l'occurrence, c'est le texte. Et il va habiller ce texte, quand nécessaire, par de la musique, par une mélodie, par des harmonies et par une orchestration. Et donc, il ne va pas habiller de la même façon les contes fantastiques d'Hoffmann et se livrer drôle et truculent. Pour Madame Favart, on a un orchestre sous forme Mozart, avec peu de bois, quelque chose de très camériste, qui peut être très très nerveux. Alors que dans les contes d'Hoffmann, quelque chose de plus ample, qui se rapproche du romantisme allemand et non pas de l'âge classique mozartien. Donc il est très intelligent et il adapte les moyens, il adapte comme un peintre aussi sa palette au sujet qu'il doit traiter.
Alors, passion pour Offenbach, passion pour la musique, passion pour le théâtre aussi chez Laurent Campellone. On va entendre à nouveau Marion Lebègue. Amélie Beaucourt lui a demandé comment elle avait travaillé avec le chef d'orchestre que vous êtes. On l'écoute.
On travaille techniquement beaucoup pour qu'après en scène on puisse faire tout ce qu'on veut. La tête en bas, de côté, de trois quarts. Parce que le corps a une mémoire et que si on l'a beaucoup travaillé en amont, On dérègle pas tant de choses en 2h30. En plus, Laurent Campellone est un homme passionné par le théâtre aussi. C'est quelqu'un qui aime l'opéra, qui aime la fosse. Et du coup, il a su aussi nous transmettre une envie de théâtre avant tout. De toute façon, l'opérette, puis particulièrement, je trouve cette œuvre, c'est du théâtre chanté, quoi. On est avant tout des postures, des personnages, on raconte une histoire. Et la musique, elle porte tout ça. Elle crée des cassures, elle crée une dimension qui permet d'aller encore plus loin dans ce qu'on propose vocalement et au niveau du jeu, mais tout ça, ça se complète. Alors, est-ce que le chef suit les chanteurs ou est-ce que les chanteurs suivent le chef? Je crois que c'est un travail d'équipe. Nous, on est avec ce qu'on est, donc le chef doit sentir nos phrases et s'adapter un peu aussi à ce qu'on a envie de nous proposer en tant qu'interprète, parce que c'est nous qui sommes sur le plateau, qui ressentons les choses au moment où on les fait. Néanmoins, lui, ça reste le chef et il a un orchestre sous les pieds. Et pour que tout ce petit monde-là soit ensemble, on doit aussi faire des compromis. On fait de la musique ensemble, donc il y a une interaction, il y a une écoute.
Voilà, travail collectif, à n'en pas douter, hein, Laurent Campellone, mais le chef doit rester le chef quand même, pas seulement le chef d'orchestre, mais aussi le chef des solistes, le chef du chœur. Comment est-ce que vous avez travaillé avec les solistes comme Marion Lebègue? Elle parlait de compromis à l'instant au micro d'Amélie.
Ben, on peut reparler de couture. Vous voyez, dans 15 jours, je pars faire une xème production de Carmen. Il est évident que j'arrive avec non pas des habitudes, mais une vision des choses, une dynamique. Mais je vais découvrir une nouvelle Carmen et je vais faire du sur-mesure sur elle. Évidemment, parce que son corps, sa voix, j'allais même dire sa vie qu'elle amène sur scène, la façon dont elle va dire les notes, dont elle va dire les mots et dont elle va chanter les notes, fera que ça sera, c'est à moi de comprendre ce qu'elle amène, ce qu'elle est sur scène musicalement, et de faire en sorte que entre ce que je souhaite et ce que j'entends dans cette partition et ce qu'elle est, on trouve ce chemin qui fait que je vais l'amener à donner le mieux, le plus, disons, être la plus émouvante, la plus vraie sur scène, avec ce qu'elle est. Et il est, enfin, pour moi, c'est inenvisageable, en tout cas, d'arriver et de dire que il y a une façon de faire et une seule.
Mais est-ce que les chanteurs doivent être à l'aise? Parce que c'est vrai qu'on se pose la question quand on ne connaît pas du tout ce milieu. On se dit que dans certaines mises en scène, vous les faites, vous metteurs en scène, comme vous Anne Cassère, vous les faites virevolter, se rouler par terre, par exemple. Et puis, en même temps, elles doivent chanter, elles doivent jouer la comédie, elles doivent travailler leur respiration. C'est quand même pas évident de pouvoir faire tout ça en même temps.
Alors, moi, je dirais que pour moi, un chanteur, un comédien, je pense à la même chose, ne doit jamais être en danger. Voilà. À partir du moment où je lui demande quelque chose, où j'imagine quelque chose, je sollicite quelque chose qui le met en danger, vocalement, ça, c'est la limite, c'est évidemment et inenvisageable.
Et pourtant, on se dit que chanter l'opéra, c'est repousser en permanence ses limites.
Alors, la limite est de la mise en danger vocale, de quelqu'un peut se faire mal, ou ne pas arriver, ou être stressé pour une chose, donc ça, c'est la limite. Par contre, personne n'a dit que le métier de scène doit être confortable. Voilà, le métier de chef n'est pas confortable. Le métier, quand vous êtes corps solo et que vous avez un solo à jouer dans une symphonie, que tout le monde en sait, ce sont pas des métiers confortables. La limite, c'est la mise en danger. Et je crois que les artistes sur scène, Anne, tu me diras,
je suis absolument d'accord,
ont besoin d'être poussés dans leur retranchement parfois.
Ah oui, oui, c'est évident. Et puis, quand on parle, par exemple, d'équilibre, l'équilibre, c'est justement cette chose qu'on, on est sur un fil. Et donc, c'est le contraire du confort. C'est le contraire du confortable. On cherche ce point qui pourrait nous faire sans cesse tomber, mais qui nous tient élevé. Et c'est cette chose-là qui est difficile à tenir. Et bien sûr, parfois, on dit on n'y arrivera pas, mais il faut quand même essayer parce que le confort nous installerait, d'abord il est inenvisageable sur un plateau, le confort.
Mais comment éviter que le jeu ne devienne l'ennemi du chant, l'ennemi de la qualité vocale, voire de la performance vocale?
Alors moi je pense que quand on est dans le sens, quand on va chercher le sens réel de ce qui dit, de ce qui est dit, on ne se met jamais en danger.
Parce que tous les chanteurs d'opéra ne sont pas forcément des adeptes du jeu, quoi. Certains ne sont pas des vrais comédiens purs. et parfois insiste davantage justement sur la performance vocale que sur l'interprétation
alors,
corporelle,
si on a
notamment.
Affaire, oui, mais alors si on a affaire, il y a des acteurs qui sont moins physiques que d'autres, et à ceux-là, on ne va pas leur demander des sauts périlleux, et on va considérer qu'ils sont comme des rochers, comme des rocs.
On revient aux sur-mesures qu'évoquait Laurent Cantelan.
Ah oui, moi je crois que c'est très important. Même un sculpteur qui voudrait, sculpter quelque chose, s'il a affaire à une pierre qui s'effrite facilement, il va devoir renoncer peut-être à certaines choses, pour pouvoir continuer à faire sa cathédrale dans cette pierre, mais à se dire, bon, bah, ça ne sera pas tout à fait comme je l'espérais, parce que cette pierre me propose autre chose. Donc, un humain, c'est encore...
Laurent Campello.
Pour compléter ce que dit Anne, c'est que nous allons dans le même sens. C'est-à-dire que la mise en scène part du texte, et une fois de plus, la musique part du texte. Donc, généralement, il n'y a pas de contresens. À partir du moment où on comprend... Le compositeur ne fait que poser des notes, que sublimer, disons, peut-être pas aider, mais en tout cas soutenir le texte d'une autre façon avec la musique. Donc, on ne s'est jamais trouvé une seule fois en désaccord sur le sens d'une réplique, sur le sens d'une ligne, d'une mélodie, parce que nous partions de la même matière brute qui est le texte.
Nouvel extrait de Madame Favart actuellement à l'Opéra Comique à Paris. Alors on l'a entendu, hein, Laurent Campellone, le chœur, il est très très présent, hein, dans Madame Favart. Alors on parlait tout à l'heure de votre travail avec les solistes. Comment se répartissent les rôles entre vous, entre le chef de chœur qui est sur ce spectacle, Edouard Ananian Cooper, et la chef de chant du chœur, Elisabeth Brussel? Alors c'est quand même trois métiers différents. Quel est le rôle de chacun?
Bon, c'est une équipe en fait, comme pour Anne, c'est une équipe avec des corps de métiers différents. Alors le chœur a été préparé par Edward, qui est un excellent chef de chœur. Il nous vient d'Australie et c'est un grand professionnel. Il a pris la tête du chœur de Limoges il y a quelques mois. Il fait un travail extraordinaire. Je suis allé le voir une fois à Limoges et on a déjà parlé très en amont de ça il y a 3-4 mois de mes options de tempo. sachant qu'il y a des choses qui ont évolué ensuite. Mais enfin, je lui donne un petit peu la feuille de route. Le chœur est arrivé extrêmement préparé. Il faut dire que le chœur est d'un niveau. Enfin, vous avez entendu ça. Ils sont impressionnants, de justesse scénique, de justesse musicale. Même chose pour l'orchestre de chambre de Paris, qui est dans la fosse et que moi j'avais entendu il y a 2 ans et qui est métamorphosé grâce au travail de Nicolas Drouin, leur directeur, qui fait un travail incroyable. On a une équipe musicale en tout cas formidable. Et un peu comme en cuisine, les solistes, vous savez, il y a la sauce, quelqu'un qui prépare les sauces, quelqu'un qui prépare les légumes. Alors,
passé de la couture à la gastronomie.
Mais
là,
c'est pas très loin, puisque vous parliez de biscottin, le papa de Monsieur Favard était pâtissier. Enfin, tout ça. Donc on avait quelqu'un qui a préparé le chœur. Moi, j'ai fait travailler l'orchestre. Ensuite, on a fait travailler les solistes. Ce sont des ingrédients qui se préparent et puis que séparément et qu'on intègre petit à petit, comme dans une recette de cuisine. Donc c'est une équipe, et pour Anne aussi.
Oui, absolument. Le costume était tellement important, on n'arrête pas d'en parler. Et donc c'est Léa Lieber qui a fait les costumes. Mais la dramaturgie aussi était importante pour moi, parce que Guy Silberstein m'a donné cette idée d'atelier, et tout mon imaginaire s'est développé grâce à cette idée.
Voilà, et les choristes sont donc les couturières et je trouve plus le mot, enfin on va dire
les petites mains, les couturières,
les petites mains, oui. Voilà, donc dans cet atelier. Et pour revenir au chœur, justement, Laurent Campione, on le disait, vraiment très présent sur scène et dans la partition, y compris avec des airs extrêmement rapides. Ça, c'est compliqué, hein, pour les choristes, c'est une vraie difficulté d'interprétation.
La grande difficulté, c'était que c'est la première fois que j'ouvre une partition d'opéra dans laquelle le chœur chante toujours allegro, c'est-à-dire un mouvement rapide. Et la difficulté, c'était qu'en fait, ces allegros ont des significations différentes en fin d'acte, quand arrive un personnage. Enfin, donc il fallait faire en sorte que le chœur ne chante pas toujours de la même façon ces mouvements rapides, et qu'on comprenne pourquoi cette obsession de la rapidité. On parlait de Fedo tout à l'heure et de ces portes qui claquent. Il y a quelque chose dans cette pièce qui est la fascination pour le tumulte, pour les successions rapides de situations, les coups de théâtre. Donc il a fallu gérer ça. Et une fois de plus, le chœur de Limoges a été remarquable d'un bout à l'autre.
C'est-à-dire que le rythme fait réellement partie de la mise en scène, voire de l'intrigue.
Et de l'esthétique de cette pièce, absolument.
Vous travaillez de la même façon en ce qui concerne les choristes, Anne Kessler, parce que pendant que les solistes occupent le devant de la scène, les autres personnages, ils sont vraiment nombreux, hein, on le répète une nouvelle fois sur scène, ils jouent eux aussi. On a un peu l'impression que chacun a sa propre feuille de route, que chacun a sa propre partition.
Ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que c'était vraiment mon but au départ. Je suis allée moi aussi les rencontrer. J'ai tout de suite senti, Laurent m'avait dit, ils sont exceptionnels. Et j'ai évidemment vu tout de suite à quel point ils étaient partants, vivants, précis. Le chef de chœur, Edouard, m'a ébloui très vite aussi. Et donc j'ai pu leur raconter notre histoire. Et j'ai senti qu'ils accrochaient et qu'ils allaient rêver dessus. Et c'est ce qui se passe. Et chacun apporte sa vie, sa partition, son parcours, son projet.
Mais il y a une part d'improvisation au sein du groupe, ou la feuille de route, elle est quand même très précise?
Il y a une... pour qu'il y ait improvisation, il y a feuille de route précise et canevas précis. Mais il y a improvisation. Et après, maintenant, ils refont la même chose, mais en ayant inventé, eux, la chose.
Juste donc, une petite curiosité que j'ai depuis très très longtemps quand je vais au spectacle. Un brouhaha, ça se crée comment sur une scène de théâtre?
Parfois, il faut le laisser faire. Et voilà, c'est le miracle. Ou alors, il s'organise un peu. Mais j'ai pas de... Laurent, peut-être.
Peut-être à la fin de la pièce, donc il y a une, à la fin de l'ouvrage, il y a une pièce de théâtre qui se joue en dehors de la scène, et il y a des hurrahs, des acclamations, alors ça, on l'a réglé comme vraiment une partition de musique, parce que comme ça répond, ou ça déclenche des répliques sur la scène, il a fallu que ça soit très précis. Donc il y a quelqu'un qui, on a réglé les intensités, les longueurs de ces interventions-là.
Merci beaucoup à tous les deux, Anne Kessler et Laurent Campione. Madame Favard à l'Opéra Comique jusqu'à dimanche.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Et pour terminer, direction Vienne, en Autriche, grande ville musicale européenne si l'en est. Nous partons à la découverte d'Oskar Kokoschka. Le Leopold Museum propose jusqu'au 8 juillet une exposition sur celui qui fut à la fois peintre, écrivain et dessinateur. Une exposition qui rassemble 260 œuvres. Elle s'intitule Kokoschka expressionniste migrant européen. Trois aspects essentiels dans l'œuvre de cet artiste qui vécut près d'un siècle, de 1886 à 1980. Le reportage pour VMDN signé Isorias.
Oskar Kokoschka est l'un des enfants terribles de Vienne, un avant-gardiste qui, dès le début de sa carrière dans les années 1900, intrigue et choque. On s'en rend compte dès les premières salles de l'exposition, notamment face à l'affiche qu'il réalisa pour sa pièce de théâtre « Meurtrier, espoir des femmes » en 1909. S'inspirant d'une Pietà, l'affiche représente une Mater Dolorosa tenant dans ses bras un corps ensanglanté, celui du Christ sans doute. Mais ici, le fils semble avoir été la victime de sa mère, représentée en femme fatale, ce qui fit scandale. C'est le premier pas de Kokoschka dans l'expressionnisme, courant dont il fut l'un des pionniers, comme nous le constatons dans la salle consacrée à ses portraits que nous présente Heike Eipeldauer, commissaire de l'exposition.
Kokoschka essaie d'aller au-delà des apparences, dans un sens métaphorique mais aussi sur la forme. Il peint en surface à la manière d'un pasteliste, mais on voit aussi qu'il fait des rayures sur la toile. Il essaie ainsi de montrer la vérité intime du modèle. Regardez par exemple ce portrait du père Hirsch. Kokoschka le représente comme un squelette et anticipe, d'une certaine manière, sa mort.
On découvre au fil des salles les thèmes explorés par Kokoschka, l'enfance, la féminité, mais aussi et surtout la relation homme-femme. Il se met notamment en scène dans un double portrait, aux côtés de son amante, Alma Mahler, veuve du compositeur, représentant la tension amoureuse entre attraction et répulsion. Kokoschka peint aussi de nombreux paysages, des œuvres variées qui se distinguent par leurs couleurs.
Il déménage à Dresde en 1916 et il resta jusqu'en 1923. C'est une période très importante car c'est là qu'il va commencer à utiliser des couleurs très vives. Dans les tableaux exposés ici, vous voyez beaucoup de rouge, de jaune, des couleurs qui ne sont pas là uniquement pour représenter les objets. Cette période a été un pas important pour Kokoschka vers la liberté de couleur et de forme.
Les nombreux voyages de Kokoschka en Europe et en Afrique du Nord ont influencé son œuvre, tout comme son engagement politique. Peintre humaniste, il s'oppose dès les années 30 au nazisme. Il est classé comme artiste dégénéré et se représente sous cette appellation dans un autoportrait en 1937, un an avant son exil forcé pour l'Angleterre.
Cet autoportrait en artiste dégénéré interpelle par le regard saisissant qu'a Kokoschka. Il semble dire « Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe autour de moi ». Il s'est vraiment engagé en s'attaquant aux racines des croyances nazies. Il s'est par exemple beaucoup intéressé à l'éducation de la jeunesse et souhaitait qu'il y ait des écoles supranationales où les élèves pourraient rencontrer des gens de culture et de langues différentes.
Son engagement politique perdurera lors de ses années d'exil, tout comme son combat européen que l'on découvre dans les dernières salle de l'exposition.
Ces deux triptyques, celui de Prométhée et celui de Thermopyle, montrent Kokoschka en fervent européen, car il développe ici une vision plus universelle du monde, basée sur la tradition hellénistique dans l'Antiquité.
Des années 50 jusqu'à sa mort en 1980, Kokoschka continuera de voyager et de peindre des œuvres où les couleurs et les formes s'expriment encore plus librement, à l'instar de son chef-d'œuvre Pergunt qui conclut l'exposition.
Reportage d'Isorias à Vienne pour VMDN. On va marquer une courte pause et c'est le retour de l'info sur RFI. On se retrouve demain avec l'actrice Fanny Ardant et son metteur en scène Bertrand Marcos qui adapte Marguerite Duras dans Hiroshima, mon amour, d'après le scénario du film d'Alain Resnais. C'est actuellement au Théâtre des Bouffes Parisiens. Tiens donc, le théâtre dirigé par Offenbach, dont le buste trône d'ailleurs à l'entrée. À demain et vous m'en direz des nouvelles.